Le forum Habiter Durable sur le thème Rénover en copropriété, mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Immo et Carbone Zéro, la radio.
Et donc nous sommes toujours là en direct du forum Habité Durable depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Cet événement organisé par l'Agence Parisienne du Climat en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l'ADEME Île-de-France et les agences locales de l'énergie et du climat de la Métropole parisienne. Donc depuis ce plateau là en direct sur Carbone Zéro, la radio, première web radio dédiée aux transitions et Radio Immo. On va parler à présent un sujet lié à l'énergie puisque les enjeux aussi de gaz et en particulier de gaz renouvelable. Est-ce que ça peut être aussi la clé pour décarboner l'énergie ? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Braque. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de marché copropriété chez GRDF. Alors évidemment, en ce moment, je pense qu'on peut difficilement éviter, vu le conflit en Ukraine, de parler du sujet du gaz. On nous dit de façon récurrente qu'on est dépendante de la Russie. Je crois que finalement, la France, on est dépendant à 8%, c'est ça, pour
le
gaz ?
Non, on est dépendant à 17%.
17%, d'accord. Au moins, autant être précis.
Voilà, contrairement à l'Allemagne, qui elle est dépendante à 55%.
Oui, quand même. Donc déjà, on n'est pas en totalité dépendant d'eux. Mais on a quand même une énergie, hein, le gaz, qu'on importe en quasi-totalité, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, pour une bonne partie. Maintenant, ça arrive principalement des pays du Nord, également du Qatar et de l'Algérie. Mais il y a également d'autres pistes aujourd'hui qui ont été explorées afin de pouvoir compenser une éventuelle défaillance de ce qui nous arrive des 17% de la Russie. Mais le gaz renouvelable, hein, vous en parliez juste à l'instant, et le gaz non renouvelable aujourd'hui va être une solution. À aujourd'hui, d'ici à peu près 2030, on serait en capacité de fournir 20% de gaz renouvelable. Donc autant vous dire qu'on serait en susceptibilité de pouvoir gommer en fait cette dépendance de 17% des gaz russes. Si je vous prends même l'exemple en fait d'une unité de méthanisation dans le 77, aujourd'hui une unité de méthanisation dans le 77 est en capacité de fournir 16% de gaz vert et gaz renouvelable. Donc la totalité quasiment du résidentiel de ce département.
Alors déjà, on a commencé à aborder ce sujet du gaz renouvelable. On va revenir en détail, mais c'est normal. En tout cas, on voit bien, on ne va pas rentrer dans des intérêts géopolitiques, mais en tout cas, on voit bien que la France, finalement, pourrait arriver progressivement à s'en passer de ce gaz russe, mais on ne va pas rentrer dans le détail sur tout ça. On est là pour parler des copropriétés aussi. Et de la part du gaz, elle est de combien dans les copropriétés ?
La part du gaz est quand même relativement importante. Mmh. Maintenant, alors elle est de combien ? C'est une bonne question en fait, hein, parce que aujourd'hui il y a un certain nombre de copropriétés alimentées par des réseaux de chaleur, mm-hmm. notamment encore par du fioul. Hein,
oui aussi, oui, on en parlait déjà tout à l'heure dans une autre séquence.
Vous
oui.
en avez parlé, il y a encore un certain nombre de logements, notamment en Ile-de-France, très importants alimentés au fioul, avec un taux de vétusté en plus de chaufferie fioul à 80%. Donc ça va être très très complexe hein, de par le décret qui est sorti le 5 janvier sur le non-remplacement possible de ces chaudières. Donc les alternatives vont être relativement restreintes pour ces copropriétés-là. Mais bon, sachez que si on prend notamment les conversions en fioul vers le gaz, on initie entre 250 à 300 dossiers par an qui correspondent à peu près à 9000 logements complémentaires qui se rallient au gaz et qui quittent le fioul tous les ans en Ile-de-France.
Quand même. Et alors, ça veut dire que concrètement, quels conseils vous donneriez ? Vous parliez de vétusté. C'est typiquement quand on est dans une copropriété, il vaut mieux quand même à un moment, à terme, changer, pas uniquement parce qu'elle est au fioul, mais même sa chaudière au gaz très ancienne. Hein. C'est vraiment ça.
Tout à fait. Notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, il est important d'être attentif en fait, à la vétusté même d'une chaufferie gaz. On rencontre très fréquemment, et vous m'en aviez parlé juste avant, des chaudières gaz qui datent des années 75-80, qui sont sur des anciens systèmes, en fait. Hein. Des systèmes notamment atmosphériques, même voire des brûleurs à air pulsé qui sont plutôt énergivores. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même la chaudière à condensation, hein, THPE, très haute performance énergétique, qui, au travers de son installation, rien que de passage de changement de système, de gaz à gaz, mais avec une chaudière à THPE, vous fera gagner quasi 25% de consommation, donc automatiquement de facture.
Oui, alors Jérôme Braque, on voit bien les enjeux, mais c'est vrai que quand on parle de gaz, on ne peut pas dire le contraire. On parle aussi de transition énergétique, on parle de mix énergétique. On se demande quelle place aura le gaz à l'avenir, qui reste une énergie fossile, même si elle est décrite comme la moins fossile, c'est ça ?
Alors elle est décrite effectivement comme une énergie fossile, et c'est une énergie fossile, mais la moins fossile, puisque par rapport à du fioul, avec un taux d'émission qui est quand même 100 grammes en dessous de ce que peut faire le fioul, possible. Mais bon, alors après, on a quand même à peu près 220, 230 ans, hein, je crois, de stock mondial de gaz dans la Terre. Maintenant, il nous faudra pas tout ce temps-là quand même hein, pour opérer la troisième transition énergétique au sein de GRDF, hein, la troisième révolution gazière vers le gaz renouvelable. Puisque, en fait, le gaz renouvelable, en fait, ça a déjà été entamé depuis un certain nombre d'années. Je peux vous donner des chiffres. Depuis 2017, il y avait 44 unités de méthanisation. Nous sommes aujourd'hui, donc début 2022, soit un petit peu plus de 4 ans après, il y en a 383 qui tournent.
Je me souviens d'un objectif de Ségolène Royal qui était de 1000. C'est pas 1000 méthaniseurs, je crois qu'on a encore du mouvement pour...
On en a encore plein sous le pied, en fait. On a à peu près, pas loin de 1200 projets qui sont en capacité d'émerger. Ce qui équivaut en fait à une fourniture, comme je vous le disais tout à l'heure, de 20% de gaz renouvelable d'ici à peu près 2030, avec un objectif à 2050 de 100% de gaz renouvelable.
Alors, puisqu'on a des atouts, finalement, les méthaniseurs, c'est lié aussi à l'activité agricole, hein, c'est ça. Donc, finalement, on a des atouts, mais qu'est-ce qui fait que ça a du mal à se développer? Les projets sont encore trop lourds, concrets à mettre en place. Il y a parfois aussi, on parle souvent de l'éolien en disant qu'on râle contre l'éolien, mais les méthaniseurs, j'ai cru remarquer qu'on disait que ça sentait pas bon, hein, pour résumer.
Non, vous savez, oui, je pense qu'on trouvera toujours des personnes qui s'y opposeront de toutes les manières. Maintenant, non. Ce qui fait que ça ne se développe pas trop, bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein, de par la conjoncture et de par ce qui se passe.
Comme quoi, quand on est face au mur, parfois on se dit qu'il faut peut-être accélérer le mouvement sur certains sujets.
Ouais. Concrètement, voilà. Malheureusement, bon, par rapport à la guerre en Ukraine, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Hein, on a démarré il y a presque une dizaine d'années, la méthanisation. Hein, donc voilà, c'était quand même c'est le plus gros projet de l'entreprise. Hein, c'est la stratégie de l'entreprise de partir vers ce gaz renouvelable. Donc voilà,
Certains disent d'ailleurs dans les études, hein, une étude ADEME, GRDF et GRT Gaz, qui dit qu'un mix gaz 100% renouvelable à l'horizon 2050, c'est possible.
Mais
tout à fait envisageable.
Tout à fait, oui. Comme je vous le disais, on a à peu près 1200 projets et tous les jours, ils s'en alimentent. Il ne se passait pas une seule semaine l'année dernière sans qu'on puisse quasiment mettre en service l'unité de méthanisation. Donc derrière, on est quand même dans un cycle aussi, il ne faut pas l'oublier, vert et vertueux. Donc ça, c'est très important. On soutient donc toute la filière agricole, hein, puisque c'est principalement issu du déchet agricole, mais également des effluents d'élevage, de déchets alimentaires. Donc derrière, il y a toute une filière. Il y a les collectivités, le développement économique local. Et puis, on peut même aller jusqu'à dire que, concrètement, si vous prenez une unité de méthanisation dans le 77, qui avant faisait venir quasiment 9 semi-remorques d'engrais chimiques, aujourd'hui, se passe de 8, c'est-à-dire qu'il n'en commande qu'un par rapport aux 9. Les steppes, c'est-à-dire les résidus issus de la méthanisation, les digestats issus de la méthanisation, restent un engrais naturel. Donc ça aussi, c'est important. Voilà, on fait vraiment le tour et la boucle du cercle vertueux.
Du cercle vertueux. Donc, et puis concrètement aussi, comment ça fonctionne? J'allais dire, quand on est en copropriété, le gaz, le biogaz, on peut l'injecter finalement dans un réseau de gaz traditionnel? Ça se fait assez facilement?
Alors, il est déjà injecté. Il est déjà injecté. Je ne veux pas dire que c'est un incolore inodore, mais c'est un peu comme ça. Hein, vous ne voyez pas la différence. En fait, il n'y a aucune adaptation de produit à effectuer. C'est pas comme quand on passe d'une voiture diesel à une voiture essence. Hein. C'est exactement la même chose.
D'accord. Et avec l'idée que ça soit dans des circuits courts et locaux, finalement. C'est ça la démarche qu'on a derrière.
On essaye plutôt d'élargir, effectivement, dans un premier temps sur les circuits courts, mais après on essaye d'élargir, mais notamment au travers des contrats gaz vert qui sont à disposition aujourd'hui des copropriétés, hein, au travers des fournisseurs. Vous avez la capacité de participer avec les garanties d'origine.
D'accord, donc ça veut dire que c'est en partie au biogaz. Il y a du gaz traditionnel, du gaz naturel et le gaz. Voilà, pas avoir encore en totalité.
On ne pourra pas avoir en totalité. Je ne peux pas non plus vous dire exactement ce que vous avez en biogaz qui arrive au compteur de votre
copropriété. J'allais dire, les garanties d'origine aussi, globalement, sur les énergies renouvelables, ce n'est pas toujours très simple de savoir précisément d'où ça vient.
Je pense
il y a des questions autour.
Tout ce que j'espère, c'est que d'ici 2050, normalement, le sujet sera clos, puisque en fait, ce sera 100% du gaz vert qui sera dans les tuyaux. Donc voilà, comme je vous le disais, on a 11 millions de clients, on a 200 000 km de réseau, donc voilà, on a tout pour le faire. On a tout pour participer à cette transition énergétique vers un gaz renouvelable et une énergie décarbonée.
On a tout pour le faire, mais on voit quand même dans la réglementation, à la RE 2020, on pousse beaucoup quand même vers les pompes à chaleur, vers des chaudières à condensation. C'est pas simple de placer quand même l'univers du gaz.
Alors sur tout ce qui est construction neuve, effectivement, il y a une certaine tension. Maintenant, ce n'est pas interdit. Je tiens à le dire aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses en disant
exactement.
Oui, non, mais ça va être interdit. Alors non, ce n'est pas interdit. Mais voilà, on va devoir faire preuve... Pas d'ingéniosité, mais je dirais d'hybridation de systèmes qui nous permettront de rentrer dans les systèmes de calcul de la réglementation environnementale 2020 afin de pouvoir positionner malgré tout le gaz, notamment en partie sur un certain nombre d'habitations.
Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux copropriétaires par rapport à leur chaudière, au gaz, à l'avenir du gaz, qui aura toujours une place dans le mix à l'avenir, c'est ça, Jérôme Brac?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que j'espère bien, c'est que j'en suis même certain, en fait. Tout repose sur, comme vous le disiez tout à l'heure, un mix énergétique relativement cohérent. On aura besoin de toutes les énergies. On a vu les pics de consommation qu'on peut avoir. Toutes les énergies devront être complémentaires. On ne pourra pas forcément plus en favoriser une plus qu'une autre. J'en reste persuadé. Et donc, chacun pourra apporter sa contribution de toute façon.
Avec toujours l'objectif, c'est que ça soit au prix le moins élevé possible.
Ah oui, il y a toujours
un gros enjeu.
Il y a toujours le facteur prix. On a pu voir, en plus du phénomène conjoncturel sur la fin d'année 2021, une certaine augmentation. C'est une énergie qui bénéficie également du bouclier tarifaire. Donc ça, c'est important de le rappeler, afin de pouvoir un petit peu absorber cet effet conjoncturel et ce contexte. Maintenant, si on prend ça sur les 12 dernières années, c'est quand même l'énergie qui a été la moins fluctuante. Donc ça, c'est important de le rappeler, avec même un certain nombre de baisses. Voilà. Donc la conjoncture ne nous favorisant pas actuellement, c'est une chose, mais je vous invite malgré tout à faire des comparaisons au travers des sites, énergie info, etc. Et vous verrez malgré tout que la molécule gaz reste un atout économique aussi.
Voilà, donc on va garder ça de près, un atout économique.
En plus qu'un atout écologique pour le futur.
Exactement, à travers le gaz renouvelable. Merci à vous pour cet éclairage, Jérôme Brac, donc chef de marché copropriété chez GRDF. On est toujours en direct depuis le forum Habiter Durable. On va voir dans un instant comment ça se passe du côté des gestionnaires de copropriété autour de ces enjeux de rénovation énergétique. Donc restez bien sur Radio Immo et Carbone Zéro, la radio. Merci.
Le forum Habiter Durable sur le thème « Rénover en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Immo et Carbone Zéro, la radio.